Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hello! Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast?
Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, bah pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine.
Est-ce que vraiment, on doit encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie?
C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing.
Montrer sur les réseaux que être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net.
Donc, en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable.
Notre santé, c'est 90% l'alimentation.
Ouais, c'est fou.
Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intention. Aujourd'hui, c'est moi, Marisa, qui serai votre hôtesse, mais attention, je ne serai pas seule à discuter avec vous cette fois-ci, car j'ai l'immense joie d'accueillir Céline Chadelat. C'est la co-auteure du livre Le Mois d'Or, qui est un livre écrit à quatre mains avec Marie Maé Poulain, et qui est, selon moi, un indispensable pour toutes les mères et tous les coparents, et dont je vous ai tant parlé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Moi, je l'ai écouté sur Audible. Pour moi, c'est une pépite que je vous invite grandement à vous offrir ou à offrir. Et Céline a généreusement accepté de participer à cet épisode avec nous, de partager avec vous ses conseils et ses connaissances sur l'alimentation en postpartum. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu ici, en France, en Europe et globalement, je dirais, en Occident, alors que c'est à mon sens primordial de prendre soin de son alimentation après un accouchement. Pourtant, dans plein de pays, comme la Chine par exemple, le postpartum est très important et le bien-être de la femme est respecté. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, les femmes sont très souvent choyées par leur entourage qui leur prépare des plats adaptés, qui leur prodigue des soins précis. Alors qu'ici, en Occident, on attend d'une femme qui a accouché qu'elle reprenne sa vie normale comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que la pratique du mois d'or doit se répandre pour permettre aux femmes de prendre soin d'elles après avoir vécu l'effort le plus physique et intense qu'elles auront sûrement à faire dans leur vie. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira et qu'il vous permettra de diffuser largement cette pratique du mois d'or. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, aux mamans qui m'écoutent, prenez grand soin de vous. C'est parti pour l'épisode. Coucou Céline et bienvenue donc sur cet épisode de podcast Intention. Et merci tout d'abord d'avoir accepté de participer à cet épisode qui me tient beaucoup à cœur. Donc merci à toi.
Merci Marisa de m'avoir invitée et bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec toi et de parler de ce sujet de l'alimentation qui me tient aussi beaucoup à cœur et pour lequel je suis passionnée.
C'est top. Est-ce que tu pourrais, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, te présenter rapidement, ensuite nous dire un peu mais qu'est-ce que c'est que le mois d'or? Quel est le concept derrière le mois d'or et d'où il vient?
Bien sûr. Alors, donc moi, je suis Céline Chadelat. Je suis la co-auteure du livre Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement, que j'ai co-écrit avec Marie Maé Poulain, qui est psychologue. Le mois d'or, d'où ça vient? C'est un terme qui est issu de la médecine chinoise et qui désigne cette période qui suit l'accouchement, qui dure 40 jours, pendant lesquels la maman, après la naissance, va être entourée de soins et de pratiques spécifiques pour améliorer et lui permettre de retrouver des fonctions physiologiques et en même temps psychologiques optimales. Donc de créer le lien avec son bébé tout en se reposant et en se remettant de ses 9 mois de grossesse et de son accouchement.
D'accord. C'est le mois d'or, c'est donc un mot qui existe déjà dans la tradition chinoise,
c'est ça ? Tout à fait, c'est ça.
D'accord.
Oui, non, on ne l'a pas inventé, mais on a trouvé que c'était un joli mot.
C'est vrai que c'est un très très joli mot. C'est vrai, alors du coup, je le dis tout de suite, mais ce livre,
allez vous le procurer tout de suite. C'est un livre dont je vous ai tellement parlé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Il s'appelle donc Le Mois d'Or. Vous l'aurez de toute manière dans la description de cet épisode. Si vous êtes une jeune maman, si vous allez être maman, si vous connaissez une femme qui va être maman, c'est un super cadeau, je trouve, de naissance. Franchement, moi, c'est un truc que je pense que j'offrirais directement si je connais quelqu'un autour de moi qui est enceinte. Et nous, aujourd'hui, on va plus parler davantage de l'alimentation, du côté alimentaire du livre. Mais sachez que dans ce livre-là, comme elle disait Céline, vous parlez pas que de l'alimentation, mais vraiment de tous les soins, de tout le bien-être.
C'est ça, les soins du périnée qui est très important, par exemple, pouvoir bien récupérer et s'assurer des organes et une tonicité au niveau du périnée à long terme, parce que c'est bon de savoir, il peut y avoir des risques d'incontinence, des petites fuites urinaires, et ça, c'est assez fréquent. Et on peut parer à ça avec certaines pratiques, et notamment le repos, encore une fois.
D'accord, et toujours.
Ouais, voilà.
Et donc, dans le livre, vous parlez de l'alimentation parce qu'en fait, finalement, dans le postpartum, l'alimentation, on se rend compte qu'elle a une immense place et pourtant, on n'en parle jamais. J'avais jamais entendu parler de ce concept de l'alimentation postpartum. Pour moi, je pensais accoucher et faire exactement la même chose que d'habitude. En pire, évidemment, puisque je pense que tout le monde le sait que quand on accouche, on a moins le temps, on est fatigué, on a un bébé à s'occuper. Et fatalement, beaucoup d'ailleurs de mes abonnés m'ont dit « je mangeais n'importe quoi en postpartum » parce que forcément, t'es fatigué, donc tu vas acheter toutes les conneries que tu trouves en livraison ou au supermarché parce que tu prends pas le temps, parce que t'es crevé. Et en fait, c'est pas bien de faire ça.
C'est ça.
Pourquoi l'alimentation a une si grande importance en fait ?
L'alimentation, c'est un besoin primaire. C'est comme dormir, c'est comme se laver. Ce sont des besoins sur lesquels on peut pas faire l'impasse parce que ce sont des besoins primaires qui nous permettent de vivre au quotidien et d'accomplir notre vie chaque jour avec de l'énergie et avec suffisamment d'énergie. Donc on va retrouver donc l'énergie, elle nous vient essentiellement de la nourriture et du sommeil. Donc la nourriture va être très importante que on est dans des, alors en postpartum, on est vraiment dans des conditions qui sont particulières. Vous n'êtes pas simplement aujourd'hui j'ai faim, je vais manger. Pas du tout, c'est pas ça. C'est que on sort quand même déjà de 9 mois de gestation, pendant lesquels et surtout pendant les trois derniers mois pendant lesquels on a donné beaucoup d'énergie, des vitamines, des nutriments à notre bébé. Donc c'est quand même les nutriments, les vitamines vont en priorité pour le bébé. Hein. Ensuite, ouais, ça vient pour nous. Donc ça, il faut y penser, c'est important. Ensuite vient l'effort colossal de l'accouchement. Donc il demande des efforts extrêmement soutenus, longs. La douleur peut venir aussi pomper beaucoup d'énergie. Donc on sort de l'accouchement en général, on est très fatigué et on rêve que d'une seule chose, c'est de se reposer et de récupérer. Et le mois d'or en fait va mettre l'accent justement, l'idée quand on s'organise pour son mois d'or, c'est d'arriver à récupérer de l'énergie. Donc l'objectif, ça va être de nourrir suffisamment la maman sans que ce qu'elle ingère lui coûte de l'énergie. Parce que souvent, quand on mange, eh bien, on peut manger des choses qui peuvent être un peu lourdes ou un peu grasses, etc. Et en fait, ça va coûter beaucoup d'énergie à notre feu digestif, qui va devoir faire beaucoup d'efforts pour pouvoir digérer, mâcher tout ça. Peut-être que tu l'as déjà vécu, Marisa, après un déjeuner un peu lourd, parfois on a envie de piquer du nez, tu sais, on va faire une sieste, quoi. Voilà.
Ouais.
Et l'idée, c'est d'éviter ça, parce que justement, on manque déjà d'énergie, on est déjà fatigué. Donc, l'idée, c'est pas de rajouter de la fatigue en mangeant, à cause de ce qu'on mange. Ce qu'on mange, ça doit vraiment être utile, ça doit vraiment nous apporter du tonus. On va privilégier des aliments et des préparations qui coûtent peu d'énergie et qui en apportent beaucoup. Donc, dans de nombreuses cultures, en particulier en médecine chinoise, on propose le fameux bouillon. en tout cas, pendant les premiers jours, les 3-4 premiers jours, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le bouillon ? C'est rien d'autre qu'une tisane de légumes, en fait. Et bien sûr aussi, alors moi je suis végétarienne, mais on peut rajouter des os de poulet et des arêtes de poisson qui vont permettre l'infusion, permettre d'en extraire le collagène, ce qui est aussi très bénéfique pour la maman. Donc l'idée, ça va être ta question, parce que du coup j'ai fait un long développement, c'était
pour... Juste pour le bouillon, est-ce qu'il y a des recettes, on trouve facilement des recettes de bouillon sur le net?
Alors, t'en trouves, oui, beaucoup sur Internet. Après, voilà, c'est assez long, le bouillon. Mais t'en trouves, bien sûr, sur Internet, t'en trouves.
Mais tu en avais une recette sur le livre, je m'en souviens plus, dans le livre.
Alors, nous, on n'a pas mis, on n'a pas, je crois pas, si, on a parlé du bouillon de légumes, et on a dit, dans le livre, vous pouvez ajouter, par exemple, donc vous préparez votre bouillon en amont, vous le congelez, et puis ensuite, au moment de la décongélation, vous apporterez un œuf poché, un tofu, des choses comme ça. Donc c'est une petite variante, mais c'est vrai que oui, bah, en Chine, ils proposent tout de suite du bouillon de poulet. Donc voilà.
Ouais, c'est intéressant. Donc le bouillon, moi c'est vrai que je l'ai pas fait du coup, mauvaise élève. J'ai pas fait le bouillon parce que je trouvais que c'était un travail qui avait l'air fastidieux. Et moi, comme je suis toujours dans la recherche du rapidité, mais j'avais entendu parler en effet que.
Ouais, je te comprends. Je te comprends tout à fait. Après, c'est vrai que le bouillon, bah c'est vraiment le nec plus ultra. Voilà, c'est le top du top. Mais faut aimer et il faut aussi accepter de faire pas mal de manœuvres. Ouais. Voilà, c'est quand même assez technique en fait.
D'accord. Bon, si vous avez l'envie, le courage, le temps, eh bien, offrez-vous un bouillon, du coup. Et bien, ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant sur l'organisation. Tu disais, si on s'organise bien. Et justement, dans votre livre, et même toi sur ton compte, le compte Instagram, pardon, du Mois d'Or, que je vous recommande aussi énormément si vous voulez des petites recettes et des conseils et des astuces. Eh bien, on parle beaucoup de préparation avant l'accouchement. Parce que là, l'idée, c'est évidemment pas de penser à préparer son bouillon au moment où vous avez accouché. Hein, parce que les amis, si vous n'avez pas encore accouché, croyez-en mon expérience qui est très, très, très récente. Vous avez envie de faire tout, sauf de faire à manger, et encore moins un bouillon, je présume.
On est d'accord.
Tout ce qui est préparation en amont, c'est très important. Est-ce qu'on peut leur donner des astuces? Parce que moi, j'ai proposé sur YouTube une vidéo sur le meal prep postpartum, qui, bon, je vous la mettrai de toute manière en description. Mais est-ce qu'on a des petites astuces à leur donner sur comment se préparer en amont? Parce que j'ai eu des questions, par exemple, sur Instagram, sur la congélation. Ouais. En fait, la congélation fait peur. Combien de temps on peut congeler? Oui, à quel moment on commence à congeler? Combien de temps ça se conserve? Est-ce qu'il faut stériliser? J'ai vu ça, j'ai un peu peur.
Ok, vous pouvez congeler 6 mois avant, dans l'hypothèse où il n'y aura aucune rupture de chaîne du froid de votre congélateur. Et ça, il faut le prendre en considération, c'est un risque. Hein. Parfois, il y a des coupures de courant, tout est coupé, et là, on perd tout ce qu'on avait congelé. Donc, moi, ce que je peux proposer, enfin, ce que je vous conseille, si vous avez de la famille ou des amis dans votre quartier ou pas très loin de chez vous, eh bien, de leur demander s'il est possible que vous congeliez des plats chez eux. Ça, voilà, il y a des mamans qui font ça et je crois que c'est très pratique parce que justement, enfin, voilà, on évite le risque des risques de rupture de chaîne du froid. Donc, stériliser, non, c'est pas la peine parce que vous congelez. Donc, de toute façon, la prolifération des bactéries va être interrompue par le froid. Par contre, il faut bien vérifier que votre congélateur est à moins 18 degrés. Ça, c'est important. Hein. C'est voilà, on n'est pas entre les 4 et 10. Enfin, vous savez, il y a des congélateurs avec, enfin, il y a des frigidaires avec des congélateurs en haut. Là, en général, c'est moins froid qu'avec un vrai congélateur. Ouais. Donc là, on est entre 4 et 10 degrés, alors qu'un normalement un congélateur c'est moins 18. Donc ça, il faut bien le vérifier. Ouais, c'est important. Vous n'avez pas besoin de stériliser. En revanche, quand vous décongélerez, bah, vous décongelez une fois et vous décongelez dans votre frigo.
Oui,
décongeler pas à l'air libre, c'est pas la peine, et en plus ça accélère le processus et c'est pas forcément bon. Justement, il y a un risque de contamination bactérienne plus élevé. Décongeler voilà, au frais dans votre frigo tranquillement la veille. Bon, vous le savez, mais ça je le répète parce que c'est vraiment très important, on ne recongèle jamais un plat. Ça c'est parce qu'en fait, pendant s'il se décongèle, il va capter des bactéries et des bactéries qui vont proliférer. Si vous les recongelez après, bah, vous avez un risque de créer des maladies. Je crois qu'il y a la salmonellose ou des choses
comme ça.
Ouais. Donc ça c'est pareil pour les glaces. Voilà, en plus tout ce qui est crémeux, laiteux, etc. Il faut vraiment éviter. Voilà ce que je peux vous dire.
Ce qu'on vous conseille, c'est comme on vous dit que vous pouvez congeler pendant 6 mois. La personne elle demandait à quel moment je peux commencer à faire mon meal prep. Bah, vous pouvez commencer quand vous le sentez. En fait, moi, j'ai commencé très très tardivement. Limite, j'allais accoucher une semaine après. C'était un peu tard, mais je sais que beaucoup de mes abonnés m'ont dit que elles, à partir du 8e mois, dès qu'elles faisaient un gratin, par exemple, elles en faisaient deux. Comme ça, elles en ont mangé un tout de suite et un autre qu'elles congelaient directement. Donc l'idée, c'était d'optimiser son temps. Tu fais un repas maintenant pour manger tout de suite, fais-le en double, en triple proportion, comme ça tu mets directement au congèle. Comme ça, ça t'évite de faire peut-être un énorme meal prep pendant toute une journée. T'en fais un petit peu tout le long de ton huitième mois, par exemple.
Ça c'est une bonne option. Après, comme tu l'as dit, si t'es motivé et si tu te sens l'envie de le faire, faut y aller. Moi, je pense qu'il faut toujours écouter ses envies. C'est là où on est efficace, donc faut y aller.
D'accord. Donc, d'ailleurs, une question, c'était et je trouvais la question très, très pertinente. Selon toi, s'il ne devait avoir que 5 aliments essentiels à manger pendant le postpartum, ou aliments ou repas, par exemple, qu'est-ce que ce serait ? Le bouillon en premier, t'avais dit.
Alors,
le bouillon,
ultra avec des légumes, ouais. Je dirais manger des protéines. Donc, ça va être des lentilles, par exemple, des dalles de lentilles corail. Beaucoup de protéines. Ensuite,
en même temps, ça fait aussi un grand bien en termes de fer, parce que quand on accouche, on perd quand même beaucoup de fer.
Tout à fait. Donc vraiment, voilà. L'objectif numéro un, c'est de privilégier les aliments qui vous apportent des protéines. Oui. Donc ça va être des lentilles, ça va être des petits poissons qui vont aussi vous apporter des oméga, donc comme les sardines, les maquereaux. Oui. Je les recommande vivement. Toutes les bonnes huiles aussi. Donc oméga 3, 6, 9 que vous retrouvez donc dans certains poissons. Alors attention à certains. Voilà, moi je recommande les poissons qui sont en bout de chaîne, donc les petits poissons, sardines, maquereaux, thon. Enfin, quoique non, pas thon, parce que thon c'est un gros poisson aussi, il y a beaucoup de mercure, mais enfin, comme vous le savez, malheureusement nos océans sont pollués et du coup les poissons en fait ingèrent beaucoup de mercure, de pollution. Donc dans les sardines, vous limitez ce risque-là. Et en plus les sardines c'est vraiment excellent, vous avez des oméga, de très bonnes huiles, c'est très 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 bon pour la santé. Et je vous recommande voilà, au-delà de peut-être acheter des bouteilles d'huile spéciale maman, enfin spéciale grossesse, ou je crois que c'est spéciale grossesse, avec toutes les bonnes huiles, donc huile de lin, huile de colza, huile d'olive, et que vous pourrez ajouter à vos repas.
D'ailleurs, c'est la marque Quintessence qui propose ça. Ils m'ont envoyé gentiment d'ailleurs un flacon d'huile pour la grossesse, justement, qui avait ce mélange de toutes les bonnes huiles. Et si vous ne pouvez pas, parce que vous ne trouvez pas cette marque-là dans vos supermarchés, pensez à acheter tout simplement de l'huile de colza. On vous en parle tout le temps, de l'huile de noix, de l'huile de lin, en première pression à froid toujours, pour qu'il y ait une bonne qualité. Et vous en mettez. Alors, ce sont des huiles qui ne se cuisent pas, on évite de les cuire. Donc plutôt, vous les mettez directement sur votre soupe, sur votre salade. Bah non, pas la salade, parce que... Ah bah non! Non, pas la salade.
Pas de crudité.
C'est la bonne transition. Pensez à mettre vos huiles plutôt donc dans une soupe, dans une purée, après l'avoir réchauffée. Et pourquoi c'était une bonne transition? Parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas manger en postpartum? Quel mode de consommation on évite dans l'alimentation, en fait?
Alors, on va éviter, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui va être cru. Pourquoi? Parce que le cru est plus long, demande plus d'efforts de digestion à votre estomac. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont crudivores aussi. Alors, ça dépend des personnes. Hein, des gens qui y arrivent, qui ont un feu digestif hyper rodé, qui fonctionne très bien. Bon, dans ce cas, écoutez-vous. Mais nous, en tout cas, et la médecine chinoise, enfin toutes les traditions le recommandent, hein, d'éviter vraiment tout ce qui va être froid et cru. Donc, on va éviter les crudités. On va pas éviter les légumes, mais les légumes toujours cuits. Ça, c'est vraiment important. Moi, je recommande aussi d'éviter, autant que faire se peut, les produits laitiers, les fromages, surtout si vous allaitez. Parce que, en fait, il faut savoir que le niveau de caséine, alors je ne sais pas si vous savez, si tu sais ce que c'est, Marissa, que le niveau de caséine, en fait, dans dans les fromages, il y a une molécule qui s'appelle la caséine, et c'est ce qui donne le goût au fromage, et c'est ce qui le rend souvent addictif, tu vois, comme le parmesan, par exemple. Et en fait, plus le temps de maturation du fromage a été long, plus il y a de caséine. Or, aujourd'hui, on est dans des processus industriels où les fromages, en fait, sont faits à la chaîne très, très vite. Donc, en fait, ils sont quasiment cuits beaucoup plus vite qu'avant, et du coup, ils contiennent des niveaux de caséine beaucoup plus élevés qu'avant.
D'accord.
Ce qui fait que, vous le mangez, tout va bien. Le problème, c'est que quand le bébé lui, il va venir téter, il va aussi ingérer cette caséine et ça peut lui provoquer des ballonnements, ça peut lui provoquer de la constipation, voire parfois carrément des reflux parfois même des allergies, etc. Donc, faut bien réfléchir à cette question de lactose, c'est important, le lait. Un peu de fromage, tu vois, fromage de chèvre, des fromages doux, des fromages frais, mais évitez les fromages trop cuits parce que ça peut créer effectivement des ballonnements pour votre bébé. Tout ce qu'on mange, c'est assez dingue, mais quand tu l'allaites, bah, ça se ressent, quoi. Donc, donc aussi, pareil. Alors, moi, j'adore le houmous, j'adore les pois chiches et tout, mais les pois chiches peuvent provoquer des ballonnements aussi. Ça peut être difficile à digérer. Donc, on évitera à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va vraiment mettre l'accent sur bouillon, soupe, purée, porridge au petit-déj, que des choses faciles pour votre intestin, et vous verrez que vous aurez tout de suite beaucoup plus de forme.
Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant, comme tu disais, le porridge, parce que quelqu'un avait posé la question justement sur une journée type dans l'assiette d'une jeune maman, ce serait quoi ? Et justement, toi, tu commencerais forcément par le porridge. Moi aussi, j'ai commencé par le porridge automatiquement.
Ah oui, le porridge, le porridge, c'est bien. Alors, moi, j'adore le porridge, parce que ça t'amène, en fait, déjà des sucres, mais naturels. Donc, on n'est pas sur des sucres rapides qui vont créer un pic d'hypoglycémie à 11 heures. On est sur des sucres naturels, donc qui vont quand même faire du bien, parce qu'on a aussi besoin d'être réconforté, et que le sucre, bah, c'est vrai que ça réconforte. Mais des sucres naturels, donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, l'avoine qu'on va mettre dans le porridge, contient pas mal de nutriments, de très bonnes choses pour l'estomac. Je vous conseille de le tremper avant, dans l'idéal toute la nuit avant. C'est beaucoup mieux, ouais, l'effet du trempage, en fait, comprend de nombreux bienfaits. Et sera pareil, plus facile aussi à digérer pour votre estomac. Et en plus, il en tirera plus, enfin, votre corps en tirera beaucoup plus de bénéfices des flocons d'avoine avec des épices, donc avec de la cannelle. Moi, je mets une pointe de noix de muscade aussi. Les épices, ça vient bien réchauffer encore le feu digestif, donc c'est très bon. Et puis, vous allez pouvoir après agrémenter, pimper votre porridge avec tout ce que vous aimez. Donc, et ce qui va être, bien sûr, du sain, hein, des choses saines, riches en protéines. Donc, le beurre d'amande. Le beurre de noisette, le beurre de cacahuète, bon, pas tout en même temps parce que là ça fait beaucoup, mais par exemple vous pouvez acheter de la poudre d'amande, comme ça vous rajoutez un peu de poudre d'amande, ça permet de varier les formes aussi, les textures. Donc la poudre d'amande, vous rajoutez des graines de lin, graines de chia, vous rajoutez carrément des petites noisettes aussi si vous aimez ça, si vous aimez le croquant, et puis un fruit, parce que l'idée c'est pas non plus de se couper complètement des fruits et de tout ce qui est cru, mais tout simplement les pommes ou les bananes, on va les faire revenir un peu à la poêle. Comme ça, et en plus, en les coupant, je crois que les bananes, en les coupant, eh bien, elles libèrent des enzymes particuliers. Donc, ouais. Donc, parfois, en fait, faire réchauffer, il faut le savoir, ça libère des vitamines. Et je crois que c'est le cas aussi pour les carottes et le brocoli.
D'accord.
Ouais. Il y a des vitamines d'ailleurs, on en parle dans le bouquin. Dans votre porridge, vous allez rajouter du bon gras. Donc, le bon gras, ça va être les amandes qui contiennent aussi des protéines. Ce sont vraiment des super aliments. Allez-y, vous pouvez y aller, quoi. Un bon porridge, c'est ça. Mettez pas beaucoup forcément de flocons d'avoine parce qu'ils vont gonfler au moment où vous allez les tremper. Donc, parfois 30 grammes, 40 grammes, ça suffit largement. Alors, vous pouvez aussi manger en petites portions, c'est-à-dire une petite portion de porridge, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre trop pour respecter vos capacités digestives et votre intestin qui est quand même un petit peu bouleversé suite à l'accouchement. Prévoyez toute la matinée des tisanes, des oléagineux encore, du chocolat noir si ça vous fait plaisir. Ensuite, le midi, là on va privilégier encore un bol, quelque chose de liquide, donc là, soit une purée. On évitera de mettre trop de crème fraîche ou trop de beurre, hein, on va plutôt... mettre un peu du citron ou un peu de lait de coco, ça c'est super bon. Citron, ça aide aussi, ça aide à digérer, donc c'est un super aliment. Donc je disais purée, donc bouillon si vous le souhaitez. Ça peut être un dalle de lentilles pour des protéines. Dalle de lentilles, moi je le recommande vraiment parce qu'il est bourré de protéines. Vous pouvez aussi à côté de votre soupe ou de votre dalle, des petites tartines de fromage frais par exemple, c'est très bon. Et puis le bouillon c'est bien les premiers jours, mais après pour le déjeuner, moi je vous conseille plutôt quelque chose qui vous tienne un peu au corps, donc type purée ou soupe.
Des soupes un peu
oui, un, Voilà, consistante. Voilà, ouais. du consistant, c'est très bien. Mais voilà, sans trop de mauvais gras, en fait. C'est ça. Mm-hmm. Sans trop de beurre, parce que le beurre, c'est pas un bon gras. Enfin, pareil pour le lait. On va éviter le lait pour vos purées. Essayez de mettre un peu plus de, par exemple, de crème de soja ou de crème d'amande, des choses comme ça. Moi, je suis vraiment plus pour l'alimentation végétale. Je pense que ça crée moins d'inconfort. Et en revanche, donc après, bah, par exemple, l'après-midi, bah, vous vous prévoyez aussi, ça peut être pour le goûter un lait d'or, par exemple.
Un lait d'or, c'est, alors là, c'est pareil, c'est une boisson ayurvédique.
Ouais.
Et vraiment, mais alors, elle est délicieuse et elle a des bienfaits incroyables pour bah, le corps et l'esprit.
C'est ça, parce qu'elle contient beaucoup de gingembre. Donc, ouais. Elle relance vraiment le feu digestif. Elle réchauffe le corps de l'intérieur. Donc, ça, c'est top. Pareil, le gingembre, à terme, vous pouvez en mettre dans vos curries. C'est vraiment un super aliment aussi.
On a une recette sur notre blog, mais c'est une boisson chaude à base donc de gingembre, de curcuma. En fait, on fait une sorte de pâte avec du curcuma, du gingembre.
Et du poivre, un peu.
Et du poivre.
Ouais.
Et ensuite, on met du lait, un lait végétal. C'est délicieux, c'est très réconfortant, c'est très gourmand, rassasiant.
C'est ça. Ouais, l'idée, c'est vraiment de boire liquide et sentir rassasié, en fait. Et plutôt ouais. de manger, tu vois, une grande part de brioche avec de la pâte à tartiner. C'est de se sentir rassasié et puis vous pouvez l'accompagner de quelques dattes et puis un peu de chocolat noir. Donc, les dattes, par exemple, ça va être bien aussi de pas les manger seules parce qu'elles contiennent beaucoup de sucre. Donc, ça peut augmenter, ça peut créer un petit pic glycémique. Donc, on va me prendre à côté un carré de chocolat.
D'accord. Ah, tu vois, je savais pas ça.
Ouais.
Et bien, c'est pour ça que mes dattes fourrées, tu sais, j'ai une recette de dattes fourrées au beurre de cacahuète enrobées de chocolat. C'est parfait, alors.
Ouais, c'est très bien. Très, très bien. Pareil, tu vois, bah, le beurre de cacahuète, c'est bien de ne pas le manger cru. Et c'est mieux de le manger avec du chocolat.
Non, elle a tout bon, en fait. Je vous mettrai la recette, évidemment, aussi dans la barre d'infos, enfin, dans la barre de description de cet épisode, parce que c'est vraiment un petit goûter que j'ai adoré avant d'accoucher. Parce que, pareil, il paraît que les dattes, c'est très bon pour...
la lactation.
L'utérus, donc c'est pour ça que moi j'estime que j'ai eu un super accouchement. Et une fois que on a accouché, c'est très bien pour l'énergie, etc. C'est du bon sucre. Et aussi, si vous allaitez, c'est une super source de pour la lactation. Ça favorise la lactation.
Ouais, ouais, c'est très bien. C'est très très bien les dattes. Même avant, d'en manger avant l'accouchement, c'est bien. C'est, ouais. c'est préconisé.
Les dattes, c'est vraiment un aliment santé, plus que j'ai découvert pendant la grossesse.
Voilà. Puis ça vous apporte un peu de sucre, mais pas du mauvais sucre. Mixer, tu vois, même les beurres d'oléagineux, hein, toujours les mixer un peu avec un peu de chocolat. Faut pas se contraindre. C'est même bon pour la santé. Donc, faut y aller. Et donc, le soir, bah, je vous recommande plutôt le bouillon le soir, justement, pour mieux dormir. On va éviter de toute façon, on évite les repas trop lourds le soir. Donc, un bouillon, c'est parfait pour amorcer la nuit. C'est très hydratant aussi, parce que c'est quand même important aussi que la maman, enfin, que vous soyez bien hydratée. Donc, tout ce que je vous ai donné là, quand même, ça, dans tous vos plats, en fait, vous avez des sources d'hydratation. Enfin, soit il y a de l'eau dans les soupes, vous avez du lait végétal dans votre porridge, et puis vous avez le bouillon. Donc, tout ça, ça va favoriser aussi, si vous allaitez, ça va favoriser la lactation.
D'accord. Et du coup, je sais que tu parlais aussi des crumbles salés, etc. Tu le mettrais à quel moment, du coup, dans le postpartum, toi ? Parce que moi, je m'en veux tout après, en fait, j'avoue.
ouais, bah écoute, après, bon, moi, tout ce que je vous donne, c'est de grandes orientations, mais ensuite, ce qui compte aussi, c'est de vous faire, enfin, c'est aussi de vous écouter et de voir ce dont vous avez besoin maintenant, en fonction de ce que vous aimez. Enfin, surtout, tu vois, on se met pas de règles absolues qui nous frustrent et tout, pas du tout. Hein. Mais voilà, ça, c'est vraiment de grandes orientations à voir après. Mais, bah écoute, le crumble, moi, je le verrais plutôt à 10-15 jours. Hein. Après la naissance. Surtout mon crumble, celui que qui est très bon, celui qui est sur la page du mois d'or, et ben, contient pas mal de parmesan. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fromage, quand même, ça a évité, surtout au début. Enfin, le petit, si vous allaitez, il a vraiment des intestins extrêmement fragiles, hein, c'est tout neuf. Donc, bon, après, toi, si ça a été avec ta fille, tant mieux. Voilà. Et c'est vrai qu'après, voilà, il faut arriver à varier plaisir. Et réconfortant, parce que le réconfort, c'est vachement important, ouais. Et bien-être, et tout en gardant aussi un côté healthy et sain pour la santé, de votre santé et votre bébé.
Il y a une abonnée qui me disait qu'est-ce qu'il faut manger justement pour éviter de prendre du poids. Et ben en fait, la question, elle se pose même pas, parce que déjà, à la base, on n'est pas censé se poser ce genre de questions Ça, c'est mon avis. Après un accouchement, hein, c'est pas. En fait, je trouve que avec les réseaux sociaux et tout, on a cette course à la reprise, la perte ouais. de poids ou le retrouver son corps d'après grossesse tout de suite. J'ai mis 9 mois pour le créer, mon gamin. Je compte pas avoir perdre mon ventre tout de suite, en fait. Hein. Faut prendre le temps. Et je pense qu'au début, la question de perte de poids ne se pose pas. Je pense que c'est vraiment le bien-être parce que on se rend vraiment pas compte avant d'avoir accouché du bouleversement. Autant émotionnel, physique, tout, en fait, toute notre vie est complètement bouleversée. Donc, je pense que l'important, en priorité, c'est vraiment le bien-être plutôt que la perte de poids, ça.
Ouais, totalement. Ouais. Bah, en fait, c'est sûr qu'il y a une injonction sociale forte là-dessus. Mmh. Et moi, je sais que ce qui m'a aidée à sortir de ça, c'est de m'approprier mon corps et de reconnaître cette injonction en disant, attends, là, maintenant, c'est moi qui décide, tu vois. Il y a un travail d'appropriation à faire à la corps et de son mental. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, en fait, de dire, là, ça me regarde, c'est mes responsabilités. Et comme tu l'as très bien dit, on a conçu un enfant pendant 9 mois, on a accouché, c'est quand même l'effort d'une vie, on a donné la vie, je veux dire, la pression du poids, le sujet, c'est vraiment pas le sujet. Voilà. Après, voilà, moi, ce que je recommande, parce que c'est vrai que le problème en plus, hein, enfin, de ces questions problématiques de poids, c'est que ça crée quand même beaucoup de frustration mentale, ça crée parfois presque quelque chose de névrotique, où on pense qu'à ça, on est obsédé par cette perte de poids. Du milieu du yoga, de la méditation, du bien-être. Et j'ai beaucoup d'exemples de femmes qui ont réussi naturellement à perdre du poids ou en tout cas à être bien avec elles-mêmes juste en pratiquant le yoga et la méditation. Parce que le yoga, ça te ramène au corps. Et en fait, ça te ramène à tes limites corporelles. Et du coup, ça te permet d'accepter en fait qui tu es beaucoup plus. On est moins dans un délire mental. Parce qu'en fait, l'injonction de la perte de poids, c'est quelque chose qui est vraiment très mental. On est vraiment, on voit des images sur les réseaux sociaux, dans la publicité. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, je voyais des pubs, des pubs avec des mannequins filiformes. Et je me disais, waouh, et pourquoi? Enfin, tu vois, j'ai envie de leur ressembler. Et ça me faisait pas du bien, quoi. Tout ça pour te dire, c'est important de revenir à soi, en fait, à l'intérieur de soi, tu vois, de pas tout le temps regarder ce qui se passe autour, mais revenir à soi, et c'est une question de respect de soi-même aussi, de se dire, moi, je m'aime comme je suis maintenant. Et faut avoir confiance, le poids, on le perdra, oui. Mais pas tout de suite. Mais c'est pas le moment. Enfin, là, je veux dire, il y a l'allaitement qui se met en place, si c'est le cas. Des bouleversements hormonaux, des bouleversements biologiques, physiques, émotionnels, énergétiques. Donc, c'est pas encore le moment. Ça fait trop. Je veux dire, si on se met en plus cette injonction-là, ça fait beaucoup. Mais ça viendra. Je veux dire, moi, je sais que j'ai perdu du poids un an et demi après la naissance de ma deuxième fille. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, Marissa, je suis partie. J'en avais besoin aussi psychologiquement. Hein, j'avais besoin de m'alléger. Je suis partie faire un jeûne 5 jours. Puis j'ai perdu 4 kilos. Puis c'était bien réglé, tu vois.
Donc... Ouais. Non, là, c'est pas une pression supplémentaire à se mettre alors qu'on a un bébé. Là, c'est direction le burn-out si on continue comme ça. Non, là, nous, ce qu'on vous parle, c'est des conseils pour être bien, surtout avoir un postpartum serein, être bien dans votre corps, parce que du coup, la digestion, c'est. Si vous avez une mauvaise digestion, ça joue sur toutes les humeurs, ça joue sur nos humeurs, ça joue sur notre mental. Donc là, on vous propose d'avoir une super digestion, donc avec des aliments cuits et des repas légers.
Et puis pour revenir sur cette question de poids, tu sais, on est aussi quand même, enfin, le postpartum, c'est vraiment une phase de matrescence. C'est dans une phase de transition, on apprend à devenir mère. Donc, il faut apprendre à répondre aux besoins du bébé, on comprend pas toujours ce dont il a besoin. Enfin voilà, on tâtonne. Et en fait, c'est vrai que du coup, cette injonction-là, comme une sorte de parasite, alors qu'on est déjà dans on est déjà en plein apprentissage. Et surtout, il faut s'accepter tel que l'on est à ce moment-là. Enfin vraiment, faut essayer. Alors, je sais que c'est facile de dire il faut. Mais c'est pour ça que je conseillais vraiment un peu de yoga, un peu de méditation, ça aide vraiment beaucoup.
C'est une super transition parce que sur notre plateforme Intention, justement, qui a pour but de guider nos membres vers une alimentation plus saine, on va proposer dès janvier des cours de yoga parce que justement, on estimait aussi que le rapport entre le yoga et le corps était très important et que tout ne se passait pas que dans l'assiette. Évidemment, dans la vie, ce serait très simple, ou trop difficile pour certaines personnes, je pense. Mais non, il y a tout ce qui se passe aussi dans le mental et le psychique. Pause bébé. Je regarde les petites questions. Donc, je pense que là, c'est pas mal, moi, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je trouve que c'est assez riche.
Merci beaucoup Céline pour toutes ces informations précieuses. D'ailleurs que moi j'ai appris aussi plein de choses parce que finalement je pensais avoir eu un postpartum parfait, d'avoir suivi à la lettre. Des choses que j'ai pas faites, mais c'est pas grave, hein, comme on dit, il faut s'écouter, c'est le principal. Moi j'avais pas envie de faire de bouillon par exemple, ben j'en ai pas fait, ça va très bien aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en suivant les conseils de votre livre, il s'avère que j'ai eu une digestion excellente. J'étais même très étonnée parce que je me suis dit après l'accouchement et tout, parce qu'il faut savoir que quand on est enceinte, à la fin, on a un estomac qui est, enfin, je sais pas si vous avez ressenti ça ou si toi t'as ressenti ça, mais à la fin, moi, je mangeais très peu parce que j'étais très vite rassasiée. Mon estomac, je sais pas, je me sentais pas hyper en forme à l'intérieur. Donc, je me suis dit, évidemment, quand je vais accoucher, ça va être l'hécatombe, mais pas du tout. Moi, j'avoue que j'ai fait beaucoup de velouté, de potimarron, ouais. C'était très, très léger. J'ai mangé énormément de porridge, ça, c'est vrai. Et j'ai eu une digestion au top. Donc, merci beaucoup. Parce que ce livre, je le trouve vraiment très précieux et on n'en parle pas assez, je trouve.
Et on en parle pas du mois d'or, tu veux dire ?
Du mois d'or et de tout le mois d'or, ça, on n'en parle pas du tout assez, mais du tout. Et si, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais des petits conseils à vous donner, justement, si vous avez par exemple un tout petit frigo, donc on vous a dit d'en mettre aussi chez vos voisins, si vous avez votre famille à côté, des amis, etc. Mais pensez aussi, ça c'est un truc dont tu avais parlé, il me semble, dans le livre. Peut-être sur le podcast de la matrescence, je sais plus, mais ne pas hésiter quand vous avez des gens qui viennent chez vous, parce que vous allez forcément avoir des gens qui vont venir vous visiter, même si dans le mois d'or, mais ça je vous laisse aller écouter ou lire le livre, il faut éviter toutes les personnes qui viennent toute la journée à la maison, mais n'hésitez pas à leur demander, plutôt qu'ils ramènent 15 milliards de doudous, parce que sinon vous allez avoir 15 000 doudous chez vous, pensez à leur demander tout simplement de ramener un plat que comme ça, vous allez pouvoir mettre au frigo et manger plus tard. Demandez-leur des lasagnes, demandez-leur de préparer une soupe. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes copines quand elles me disaient « Qu'est-ce que je te ramène ?» À manger. Directement, je leur disais, donc pensez-y, c'est
une option. Marisa, il y a une chose, une question qui me revient. Il y a une personne qui parlait de la supplémentation et des compléments alimentaires.
C'est vrai.
Hors spiruline, je crois, et une autre. Ouais. Moi, j'attire vraiment votre attention sur la question du risque anémique. Et c'est pour ça qu'on parlait des protéines tout à l'heure. Ça peut avoir le coup de supplémenter en protéines, en fer, en fait.
Oui.
Donc, souvent, on donne aux femmes, et ça c'est important, ouais, ça vraiment faut que je dise, on donne aux femmes du tardiféron.
Mon Dieu.
Et du coup, c'est hyper constipant. Enfin, tu vois, ça nous crée des effets secondaires. Déjà qu'on en a assez. Enfin, à la fin de la grossesse, on en a pas mal. Et donc, le tardiféron. En plus, enfin, voilà, dans le tardiféron, ce n'est pas bon pour l'estomac. Par contre, donc, moi, j'ai expérimenté une solution que je vous recommande. Parce que moi, j'étais très fortement anémie après mon premier. J'étais très fatiguée. J'arrivais même pas à le porter, dis-toi. Et pour la deuxième, je me suis dit, non, là, c'est hors de question de reproduire ça. Et donc, sur les conseils de ma sage-femme, je prenais du fer doux, qu'on appelle le Gentle Iron. C'est du fer de chez Solgar, qui contient 25 mg de fer par gélule. Et mon médecin m'avait conseillé d'en prendre 2 pendant ma grossesse, tu vois, 50 mg par jour, et combiné, ça c'est un très bon conseil, avec de la vitamine C.
Toujours, oui, voilà. Le fer facilite avec
la... C'est ça, et la vitamine C que tu vas prendre 2-3 heures après par contre, parce qu'il y a certaines études qui ont montré que ça pouvait avoir du coup un effet oxydant, parce qu'en fait la vitamine C va venir booster ton apport en fer, mais tellement que il y a une réaction chimique et ça peut être oxydant. Donc c'est mieux de le prendre, tu vois, tu peux faire la vitamine C 2 heures après. Et puis également il y a la B6 et la B9. Mais ça normalement dans les supplémentations, enfin souvent dans les compléments alimentaires, ils proposent la B6, B9, un peu de zinc, un peu de B12.
Oui.
Voilà. Mais et moi je sais que j'ai fait donc le test pendant la grossesse donc de ma deuxième. J'ai demandé à chaque fois que je voyais ma sage-femme ou que je voyais un gynécologue ou mon médecin, je lui demandais une ordonnance pour aller tester mon fer. Faire une prise de sang pour voir le fer. Et en fait, j'ai constaté, normalement, ils te donnent une ordonnance, ils le vérifient en général au début et à la fin. Souvent, à la fin, malheureusement, c'est trop tard parce que réaugmenter son taux de fer, c'est long. Et j'ai pu augmenter en 6 mois, si tu veux. J'étais à 9 et je suis passée à 17. Donc, voilà. Alors que j'étais enceinte et que ma fille était censée, elle me prend en même temps de l'énergie.
On trouve ça où ?
On trouve essentiellement en magasin bio, t'en trouves aussi sur internet, mais faisons vivre les petits commerçants. Donc voilà, mais c'est très connu, il est assez connu, hein. Gentle Iron, ouais. tu le trouveras assez facilement, c'est la marque Solgar. Voilà. Solgar. Et vraiment, ça, c'est, il est vraiment super top. C'est...
D'accord. Ouais. Ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que j'avais beaucoup parlé du fer parce que moi, j'étais anémie aussi pendant ma grossesse. Moi, j'étais partie sur le Floradix parce qu'en fait, moi, j'ai un problème de... Je ne prends pas de cachet. Donc, je déteste les cachets. J'ai une phobie des cachets. D'accord. Donc, déjà, dès qu'on m'a prescrit le tardiféron, tout ça, j'avais dit c'est hors de question pour moi. Et de toute manière, j'aime pas tous ces trucs. Voilà, je savais que ça allait me faire des effets secondaires que je n'avais pas envie. Du coup, j'étais partie sur le Floradix fer plus plante qui était très bien. Malheureusement, c'est pas un complément qui va être top si vous avez vraiment une très grosse anémie comme moi j'avais une grosse anémie. C'est plutôt si vous avez une anémie type fatigue de la vie courante, quoi. Et moi j'avais trop une grosse anémie, donc moi là je suis passée à la spiruline, et là la spiruline pour moi c'est le jour et la nuit, hein. J'ai l'impression d'avoir revu le jour, si tu veux. J'étais dans un tunnel pendant des mois, et là j'ai l'impression de revoir la lumière du jour. Donc la spiruline, moi je la prends en poudre, et pareil ça se trouve au magasin bio, etc. Et je la mets tous les matins dans ma compote de pommes, et je vois une différence. Ça doit faire presque un mois maintenant, je la prends, trois semaines. Et je vois comment aussi c'est le jour et la nuit. Donc vous avez deux options, là on vous propose deux options pour vous supplémenter en fer, et c'est très très important en effet de supplémenter après la grossesse et pendant la grossesse aussi.
C'est ça. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, le Floradix c'est pas mal, mais ça suffit pas.
Non, pas du tout. Donc bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce supplément d'information qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions et qu'on a couvert pas mal l'ensemble de ce sujet-là. Je vous laisse dans la description pas mal de liens, hein, dont le livre évidemment du mois d'or que je vous recommande évidemment d'aller vous offrir, ou à offrir d'ailleurs, et aussi ma vidéo sur mon alimentation postpartum qui peut aussi vous donner des petites idées de recettes, sachant que aussi sur ton compte Instagram, Céline, qui s'appelle Le Mois d'Or, tout simplement, et bien il y a aussi des petites recettes, hein, dont aller farfouiller, donc n'hésitez pas à aller voir ça, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, et bien à plus.
Au revoir, merci Marisa.
Avec plaisir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.